Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Clémence Alezard, mais aussi Samuel Bernard, Tiffaine de Rocchini, Juliette Gadeau, réalisée par Alexandre Fougeron et mise en onde ce matin par David Federman. Nous allons clore donc notre semaine gastronomique avec une étude de cas. Nous avons essayé cette semaine de déterminer comment naissaient les podiums, les classements, les jeux de pouvoir entre les arts et les goûts culinaires, comment se standardisent et se définissent les appétits dans le monde, comment la gastronomie se traduit en véritable rapport de force sur l'échiquier international. Ce matin, c'est à un pays en particulier qu'on va s'intéresser. Le Pérou. Depuis quelques années, Lima a été sacrée destination phare de la gastronomie mondiale, riche, métissée, respectueuse de la biodiversité, à la fois rurale et sophistiquée, la cuisine péruvienne est plus que jamais plébiscitée. Alors pourquoi ? Comment expliquer cet engouement ? Le Pérou, nouvel Eldorado gastronomique, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Il faut comprendre la culture de l'Amazonie et comment les choses fonctionnent ici pour vraiment apprécier ce lieu. Moi je l'aime, parce qu'à chaque fois que je viens, je découvre de nouveaux produits. Ça me surprend toujours.
Ce marché, je l'adore. C'est de la machoie. C'est extraordinaire, c'est doux, très bon, c'est excellent pour la prostate. Oui, et pour le foie aussi.
Bonjour, chef. Ça, ce sera le dessert de la semaine. Ce qu'on a fait, c'est travailler avec le cacao vert, le macambo et le copoasu. Allez-y, goûtez. Quand le pays a commencé à aller mieux, il y a une dizaine, une quinzaine d'années, c'est là que ça a commencé à bouger. C'est ce qui a déclenché la révolution culinaire.
La révolution culinaire. Ces dernières années, le Pérou a vu sa renommée largement amplifiée par la médiatisation impressionnante de la richesse de sa cuisine. Pour la quatrième année consécutive, le pays a été élu meilleure destination culinaire au monde au World Travel Award, une sorte d'Oscar du tourisme. Le ceviche, préparé à base de poissons ou de fruits de mer, le piment, dont il existe des centaines de variétés, les milliers de variétés de pommes de terre aussi, le pisco, cette eau de vie utilisée dans l'élaboration de cocktails notamment, des restaurants péruviens qui s'ouvrent un peu partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis. Depuis 2012, les principaux canaux de prescription, les critiques, les guides, les consultants, désignent la petite nation andine comme la nation, le pays incontournable pour qui veut satisfaire ses papilles curieuses d'aventure. Alors pourquoi le Pérou est-il devenu soudainement l'épicentre de la gastronomie mondiale ? Cas de si particulier, la cuisine péruvienne. Et d'ailleurs, de quoi est-elle faite ? Toutes les composantes régionales s'y retrouvent-elles justement et équitablement représentées ? Pourquoi concrètement dit-on depuis quelques années que le Pérou est un Eldorado gastronomique ? Dans quelle mesure la puissance publique aussi a-t-elle participé de la promotion de ce patrimoine culinaire ? Et à qui profite cet essor ? Voilà un certain nombre de questions qui vont nous intéresser ce matin. Pour y répondre et pour découvrir cette cuisine péruvienne, on a invité évidemment une chef renommée, Lourdes Plouvinage. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous tenez un restaurant péruvien à Paris, El Picaflor.
Tout à fait.
Dans le quartier latin, rue La Cépède. À vos côtés, Ezekiel Zera, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous, rédacteur en chef adjoint du site d'information Ataboula et vous avez vu, bien sûr, grandir ce phénomène de la gastronomie péruvienne. L'un des signes, évidemment, peut-être les plus flagrants qui illustrent le succès gastronomique péruvien, c'est le tourisme. Il y a encore quelques années, Lima, c'était pas vraiment une destination très prisée des touristes. C'était plus une escale vers d'autres horizons, et notamment, bien sûr, l'ancienne cité Inca de Machu Picchu. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment une capitale à la mode. Le monde entier se rend à Lima pour profiter, entre autres, de ses trésors gastronomiques. Ça, c'est un vrai bouleversement, Lourdes Plouvinage.
Oui, alors là, ça me fait vraiment plaisir de voir que tous les touristes vont s'arrêter à Lima dans les meilleurs restaurants. Ils vont trouver une belle table digne d'une grande cuisine.
Et d'ailleurs, Ezekiel Zera, c'est un succès qui est confirmé par les différents classements. On a parlé plusieurs fois cette semaine du 50's Best, par exemple, qui est publié chaque année depuis 2002 maintenant par ce magazine Restaurant, magazine britannique. Il confirme lui aussi cet essor.
Tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est que la haute cuisine péruvienne
Son essor est relativement récent. Avant 2011, justement, dans les World 50 Best, le Pérou n'apparaissait pas. Il faut attendre 2011 et le restaurant de Gaston Acurio, Astrid et Gaston, à la 42e place, pour voir apparaître le Pérou sur la scène gastronomique mondiale.
On va évidemment parler de Gaston, parce que c'est un véritable ambassadeur de la cuisine péruvienne, mais on fera ça dans quelques instants. D'abord, Lourdes Plouvina, je me tourne vers vous, parce que vous avez ouvert votre restaurant il y a maintenant une vingtaine d'années, en 1994, je crois. Comment, à l'époque, la cuisine que vous proposiez était perçu, accueilli par les clients qui venaient chez vous? Et est-ce que vous avez senti, vous, une évolution depuis justement ce succès récent, mondial, de la gastronomie péruvienne?
Oui, bien sûr. Lorsque j'ai ouvert, nous avons ouvert ce restaurant grâce à l'initiative d'un grand monsieur qui faisait du tourisme du Pérou en France, monsieur Eduardo Justo Caballero. Lui, il y croyait énormément. Il avait le premier et seul charter sur le Pérou. Il avait fait le guide du Pérou. Il croyait. Et il m'a convaincu de monter ce restaurant. Et avec tout l'espoir, on a monté. On était un peu déçus parce qu'on a un peu souffert au début parce que on voyait que la gastronomie péruvienne nous intéressait, nous. Mais il n'attirait pas l'attention vraiment vers la clientèle parce qu'il n'y avait pas de tourisme au Pérou.
Et vous avez vu le changement ?
Énormément, énormément. Maintenant, il y a une grande demande de la curiosité. Les gens sont retournés vers le Pérou. Les gens sont ravis, ils sont agréablement surpris. C'est les mots des clients qui arrivent au Picaflore, trouver un peu le goût du Pérou.
Et quoi, c'est des gens qui sont allés au Pérou, qui ont goûté la gastronomie péruvienne et qui du coup veulent prolonger le voyage en allant chez vous?
Entre autres. Des gens qui sont curieux, des gens qui entendent les médias, des gens qui vont au Pérou, qui reviennent, qui sont allés, que quelque part ils sont en lien avec le Pérou.
Ezequiel Zera, récemment, le chef péruvien installé à Londres, Martin Morales, expliquait à propos de la cuisine péruvienne qu'elle avait, je le cite, des racines indigènes millénaires, remontant à des époques bien antérieures à la civilisation des Incas. Elle puise aussi sa source, disait-il, dans les migrations qui ont eu lieu depuis 500 ans. Espagnols, japonais, chinois, africains, ces migrants ont créé ici des cuisines qui n'existent nulle part ailleurs dans le monde. C'est ça le secret de la cuisine péruvienne? C'est son métissage?
Ce qui est intéressant avec la cuisine péruvienne, c'est que c'est, contrairement à des gastronomies dont vous avez parlé précédemment, la gastronomie nordique par exemple, à Copenhague, c'est pas une gastronomie qui est récente, c'est une gastronomie qui a un vrai patrimoine, qui a une histoire, qui a une richesse. Et en fait aujourd'hui, on voit l'émergence, le boom de cette gastronomie qui a toujours existé avec ce patrimoine.
Alors évidemment, c'est pas seulement une cuisine, disons, fusion, Lourdes Plouvinage, parce que celui dont tout le monde parle, par exemple, en ce moment à Lima, c'est Virgilio Martinez Veliz, avec ce restaurant central et son établissement. Il a été référencé parmi les 50 meilleurs restaurants du monde, et toute sa cuisine, elle s'appuie sur l'extraordinaire diversité des produits régionaux.
Tout à fait. La cuisine péruvienne est tout simplement le résultat de toutes les influences culturelles. Et n'oublions pas que nous avons presque 310% des microclimats du monde au Pérou. Donc, ils poussent plein de choses. On récupère aujourd'hui l'omaca. Vous vous rendez compte? L'omaca, c'est un tubercule. Et un complément alimentaire, c'est le viagre naturel. On a du cacao extraordinaire. On a du café. On a de l'avocat, vous savez, 100 000 tonnes d'avocats qui arrivent en France. Aujourd'hui, on a des produits extraordinaires qui interpelle. Il y a des produits naturels, il y a le sacha inchi, un huile naturelle qui a 63% des oméga 3. On se rend compte aujourd'hui qu'on a des produits que la terre nous a donnés et c'est un légage de nos ancêtres. Aujourd'hui, on les a récupérés. Il y a des épices et des herbes aromatiques qu'on ne trouve nulle part. Il y a le wakatai pour cette cuisine andine merveilleuse qui va donner des goûts et des saveurs et des parfums au quinoa, par exemple. Et toutes les potages qu'on fait en la terre cuite, c'est une cuisine qui, après avoir découvert, on fait rêver. Vraiment.
Et puis on va revenir peut-être parce qu'il va falloir décrire un peu les choses. Parce que quand on parle de cuisine péruvienne, il y a évidemment beaucoup de choses qu'il y a derrière. On ne mange pas la même chose selon si on est sur la côte, selon si on est dans les montagnes, selon si on est dans la forêt. On va y revenir. Ezequiel Zera, aujourd'hui, ce qui est à la mode, j'allais dire, c'est la cuisine nippo-péruvienne. C'est la cuisine qu'on appelle Nikkei, du nom de ces Japonais et de leurs descendants qui ont émigré en Amérique du Sud et notamment du côté du Pérou. C'est surtout cette cuisine Nikkei qui est aujourd'hui très à la mode et qu'on voit du côté des États-Unis, du côté de l'Europe. Qu'est-ce qui explique dans l'alliance finalement entre la gastronomie péruvienne et nippone, cette, visiblement en tout cas, cette harmonie, cet équilibre qui a l'air d'être exceptionnel, en tout cas c'est ce qu'on nous dit.
Alors peut-être la valorisation de des produits de la mer, voilà, deux terres qui sont marines, qui mettent ça à l'honneur, le ceviche évidemment au Pérou et tous les poissons crus qu'on connaît au Japon. Peut-être aussi le respect des produits, comme en France d'ailleurs. Mmh. Et un monsieur qui incarne peut-être ça formidablement, c'est Nobu, le chef Nobu, voilà, qui est japonais, donc qui a appris son savoir-faire au Japon, mais qui a longtemps étudié le Pérou sur place et qui propose justement cette cuisine fusion dont vous parlez.
Le ceviche, c'est donc ce plat qui est préparé à base de poisson, qui est cuit dans le citron, on a du piment, on a de l'oignon, on a de la coriandre, accompagné en général de patates douces, de manioc, de maïs,
de
gingembre, c'est le plat national en fait. Hein.
Oui, ouais. C'est emblématique.
Alors, qu'est-ce qu'on a quand on parle Lourdes-Plouvinage dans la gastronomie péruvienne? Alors, il y a la cuisine évidemment de Lima, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, en dehors de cette cuisine Nikkei justement qu'on parle, d'autres choses et quoi? Parce que quand on regarde ce qu'on appelle la cuisine, disons, andine, on a plusieurs cuisines régionales. On a la cuisine de la Sierra, la montagne, on a la cuisine de la Selva, la jungle, on a la cuisine de la côte, on a la cuisine de Lima. Est-ce que vous pouvez nous établir finalement les grandes catégories de gastronomie régionale et puis nous dire quelles sont les grandes différences dans les produits, dans les pratiques?
La cuisine, si vous parlez de cuisine Nikkei qui s'est installée carrément à Lima, et c'est la fusion nippo-péruvienne effectivement, qui va pas sortir peut-être à l'extérieur de la capitale. Mais vous avez des grandes cuisines, la cuisine du Sud, par exemple, Arequipa, avec ses picanterias, avec la tradition de la gastronomie arequipeña. Ça n'a rien à voir avec la cuisine de Lima. Arequipa, par exemple, il a des spécialités par jour. Il travaille une assiette par jour d'après les produits saisonnières. Tous les jours, vous savez changer les plats. Vous avez et c'est une grande cuisine où on travaille les écrevisses, par exemple, qui aujourd'hui sont protégées grâce à l'action des Gaston Acurio. Les produits sont protégés aujourd'hui. Vous savez la variété des pommes de terre. Le Pérou, il a 3500 variétés de pommes de terre.
La pomme de terre, c'est évidemment l'alimentation principale du côté, justement, de la montagne. C'est vraiment la base.
Du Pérou entier.
Du Pérou entier, oui.
Du Pérou entier. Parce que l'Amazonie, tant que l'Amazonie, la côte et la montagne, ils ont beaucoup, beaucoup de pommes de terre. Et maintenant, entre la cuisine...
Mais la production se fait essentiellement dans les montagnes, non?
Pardon?
La production se fait essentiellement dans les montagnes. Pas vraiment partout.
Parce que vous avez les pommes de terre sous la côte.
C'est ce qui fait aussi l'extraordinaire diversité des pommes de terre.
Et voilà.
Alors, il y a plusieurs chiffres qui circulent. On parle de 2000, 3000 variétés de pommes de terre.
3000 de pommes de terre, c'était chiffré l'Institut de la pomme de terre. Et donc, la cuisine du Sud, la cuisine de la montagne, la cuisine de l'Amazonie, ils n'ont rien à voir, par exemple.
La cuisine de l'Amazonie, il y a quoi?
La cuisine de l'Amazonie est basée sur les poissons de la rivière de l'Amazone, par exemple, qui sont très très
bons. Le paiché, le karachama.
Exactement.
Je me suis renseigné.
Ah, je vois ça. Et les fruits exotiques extraordinaires qu'aujourd'hui... Le camu-camu. Par exemple, c'est des fruits exotiques qui, dans l'automne, on ne les exploitait pas. Aujourd'hui, il y a les grands chefs qui sont sortis des réductions pour accompagner les frites, pour accompagner les maniocs. Les maniocs, c'est fort, par exemple. La feuille de bananier, dans l'Amazonie péruvienne, le noix de coco. Et tous les fruits exotiques que nous, on n'arrive pas à connaître. Et toutes ces traditions de la cuisine amazonienne qui est mal connue, qui aujourd'hui elle est un peu relevée avec le chef de Malabar à Lima. Mais sinon, elle est méconnue, comme la cuisine péruvienne il y a 20 ans. Qui n'a rien à voir avec la cuisine du Sud, Et la cuisine de la, de la montagne.
Ouais. Et d'une certaine manière, c'est vrai que cette cuisine de Lima, elle va rassembler toutes les différentes cuisines. C'est vraiment le mélange de tous les plats qu'on va retrouver dans les différentes régions, le mélange des influences nippones, espagnoles, amérindiennes, africaines, chinoises, arabes. Ezequiel Zera, qu'est-ce qui, selon vous, explique l'extraordinaire faculté de la gastronomie péruvienne à intégrer des éléments extérieurs? Est-ce qu'il y a des choses dans l'histoire, dans la culture du Pérou qui expliquent cette capacité, selon vous?
Bonne question. Alors, je ne connais pas assez, malheureusement, l'histoire du Pérou. Peut-être que Lourdes va apporter des précisions. Ce qui est intéressant, en revanche, ce que vous disiez sur le ceviche, qui incarne vraiment la gastronomie péruvienne aujourd'hui, et pourtant, c'est pas un produit du quotidien. Tous les Péruviens ne mangent pas du ceviche aujourd'hui. Chaque jour, un peu comme les sushis, on ne mange pas des sushis au quotidien au Japon. On mange beaucoup de soupes, on mange beaucoup d'autres plats cuisinés. Donc, ce serait intéressant aussi de valoriser tous les plats populaires, tous les plats qui font le quotidien des habitants du Pérou.
Oui, parce qu'effectivement, tout le monde ne va pas dans ces restaurants de haute gastronomie, et tout le monde. Et en revanche, on va aussi quand même dans des petits restaurants qu'on trouve un peu partout. Qu'est-ce qu'on y mange justement dans ces restaurants de différents qu'on ne va pas trouver justement dans cette haute gastronomie de Lima?
Écoutez,
Lourdes Louvinage.
Oui. Je pense que la cuisine péruvienne aujourd'hui, c'est le résultat de toute cette imagination du Péruvien qui n'a jamais cessé de rêver avec l'histoire de la gastronomie. Ils ont adopté toutes ces cuisines des Africains, des Chinois, des Japonais, des Italiens, des Arabes. Ils ont adopté toutes, ils ont pris une partie de chaque, ils ont renouvelé une nouvelle cuisine. Ils se sont approprié des cultures. Si vous allez manger un minestrone, la minestrone italien, par exemple, ça n'a rien à voir avec le minestrone italien. C'est un plat sans tour, par exemple. Voyez, et lorsqu'on fait une soupe dans le sud, on va se retrouver dans les traditions des Maroc. Donc il y a une adaptation de chaque élément qui sont pris de chaque pays, de chaque culture, ils ont fait quelque chose de nouveau. Et donc, par exemple, les abats, on les mange énormément à table, presque une fois par semaine. On va manger le caucao. Caucao, c'est les tripes à la péruvienne. Champainita, c'est les poumons de vaches, qui on va la préparer à notre façon. Vous voyez, donc on retrouve ça dans la cuisine africaine. Et on va manger les haricots rouges, partout.
Et ça, c'est ce qu'on va aussi manger dans les campagnes, dans les petites villes, partout.
Partout, partout. Vous allez manger partout. C'est ce qui ne va pas manquer dans une table péruvienne, c'est du riz et la pomme de terre. Et là, on voit quand même l'ascendance des...
Mais est-ce que justement, ces petits plats, pas parce qu'ils sont petits... par leur saveur, mais parce que d'une certaine manière, tout le monde en consomme, que c'est des plats, j'allais dire, quasiment du quotidien. Ils sont pas tous présents, justement, dans la haute gastronomie qu'on va retrouver à Lima. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas une partie de la gastronomie péruvienne qui, de facto, se retrouve un peu exclue de cette cuisine qui est mise en valeur, qui est montrée, exposée aux yeux de l'ensemble du monde?
Non, parce que tout en contraire de ce que vous pensez, et ils ont refait une cuisine révisitée, ce qu'on appelle en France la cuisine révisitée. Ils vont faire, par exemple, les tripes à la péruvienne différemment présentées, bien améliorées, mais tout en respectant les ingrédients intérieurs. Donc, et ça, je pense que c'est intéressant. On n'y perd pas. Aujourd'hui, par exemple, il y a un plat d'élégance, et c'est le carapulcre. Carapulcre, c'est la pomme de terre. En conservation, c'est qu'aujourd'hui la lyophilisation, c'était utilisé à l'époque des Incas, et c'est un grand plat de fête. Vous voyez, aujourd'hui, elle est ressortie, et elle est mise en valeur, représentée différemment, mais avec tous ces éléments qu'on utilisait à l'époque.
Ezequiel Zera, pourquoi ce succès de la gastronomie péruvienne vient maintenant? Et est-ce qu'il n'a pas été aussi largement construit médiatiquement et politiquement?
Alors, il y a plusieurs choses. Ce qui est fascinant, c'est la capacité des Péruviens, cet appétit qu'ils ont eu depuis quelques années, à rêver, à aimer justement cette cuisine. Il faut rappeler que dans les années 90, le Pérou, c'était compliqué. On se souvient en 97 des attentats de l'assaut à l'ambassade japonaise de Lima, tout à fait. Il y a une volonté du gouvernement péruvien, il me semble, de redonner goût, de redonner une fierté, un nationalisme gastronomique aux Péruviens. C'était le cas au Brésil avec le foot. Voilà, les Brésiliens sont forts, sont fiers du football brésilien. Les Colombiens sont peut-être fiers des écrivains colombiens. Il fallait quelque chose au Pérou. C'est venu par la cuisine, par la gastronomie.
Lourdes Plouvinage, dans quelle mesure, selon vous, l'État péruvien a mis en place justement une stratégie de promotion de sa gastronomie? Il y a eu des initiatives réelles en la matière. On va parler tout à l'heure de Gaston Ancurio, qui effectivement, lui, a eu un certain nombre d'initiatives très intéressantes. Mais je parle de la puissance publique dans un premier temps.
Écoutez, moi, en France, ce que j'ai constaté, il y avait M. Pérez de Cuellar, un grand monsieur. C'était le secrétaire des Nations Unies, qui était ambassadeur à l'époque en 1999 en France. Il a aidé énormément et avec le service commercial de l'ambassade en France, qui me correspond. Il a donné pas, disons, aux Galeries Lafayette pour la première exposition du produit péruvien. Il y avait le cacao qui est arrivé. Je pense que lui, en première partie, avec le service commercial de l'ambassade du Pérou en France, il a énormément fait. On a fait les premiers festivals de gastronomie à l'UNESCO. Et donc, c'était les premiers pas de cette cuisine péruvienne en France.
Oui, donc ça veut dire que ça confirme cette idée selon laquelle ce succès, il coïncide aussi avec le retour d'un contexte politique et économique plus apaisé.
Tout à fait. Je pense que il y a eu quand même quelque part, comme vous dites, la volonté du gouvernement dans tous les moyens pour appuyer cette histoire qui commençait il y a une quinzaine d'années.
Et puis on le sait, l'histoire évidemment est faite de ruptures et de continuité. Il faut peut-être rappeler aussi que ce succès, il n'est pas si soudain. Le chef français Auguste Escoffier, 1846-1935, roi des cuisiniers, cuisinier des rois, qui aurait déclaré au début du XXe siècle que la cuisine péruvienne était la troisième meilleure cuisine au monde, après bien sûr la cuisine française, évidemment, et la cuisine chinoise. Alors on ne sait pas si c'est vrai, mais en tout cas il l'aurait dit. Vous voulez intervenir, Ezequiel Serra?
Oui, je me disais, voilà, si on peut peut-être revenir sur les grandes étapes de l'émergence de la cuisine péruvienne dans le monde. À la fin des années 90, il y avait déjà une cuisine populaire qui s'exportait, avec le ceviche notamment. Je me rappelle, en 99, le New York Times avait fait un grand papier comme ça sur comment le Pérou s'exporte dans le monde entier. Et puis en 2006, pour se reconstruire aussi notamment, le Pérou lance cette opération, cette initiative qui s'appelle Pérou Gusto Mucho.
Mucho Gusto.
Mucho Gusto, pardon. Qui va financer des livres de cuisine péruvien dans le monde, qui va placer des chefs, des cuisiniers péruviens dans différents festivals gastronomiques dans la région et au-delà. On a en 2008, très important, le lancement du festival Mistura. À Lima, qui à l'époque attirait 30 000 curieux pour la première édition. Aujourd'hui, c'est 20 fois plus. En 2011, on a également l'organisation des États américains, donc qui rassemble tous les pays des Amériques, comme on dit, qui reconnaît la cuisine péruvienne comme faisant partie de l'héritage intégral de cette zone-là. Voilà, donc très important.
Alors, il y a une autre figure qu'il faut évoquer quand on parle évidemment de la promotion de la gastronomie péruvienne, c'est Gaston Ancurio. Je prononce correctement ?
Gaston Ancurio.
Ancurio. Tout le monde l'appelle Gaston, il paraît, au Pérou. Il a enchaîné les documentaires, les émissions de radio, de télé. Il a participé à ce programme Masterchef Pérou. Il a également ouvert des restaurants un peu partout à l'étranger, au Chili, en Colombie, en Équateur, au Venezuela, en Espagne, au Mexique, en Argentine et en France. Bien sûr, il a écrit des livres. Enfin, il a fait plein de choses, Gaston.
Quand nous, on est arrivé, moi, je servais du foie gras dans mon restaurant, du bourguignon, coco vin, la pain à la moutarde. Ça, c'était ma carte parce que c'est ça. Le rêve d'un cuisinier, pas seulement au Pérou, dans tout le monde, faire la haute cuisine française. Donc on a mis tous les principes qu'on a appris en France sur notre culture. Et ce n'était pas seulement la cuisine, c'était une expérience complète. Service, cuisine, salle. Et essayer de mettre en valeur l'expérience, le concept. On fait la politique dans la cuisine. Quand on fait la promotion de notre pays avec la cuisine à Paris, on fait la politique. Quand on travaille avec un petit agriculteur pour montrer son travail, pour mettre en valeur ses produits et pour sa reconnaissance dans les villes, on fait la politique aussi. Quand on se bat avec les pratiques de pêche incontrôlables qu'il y a dans le Pacifique, on fait la politique. Donc on peut faire la politique, de la bonne politique sur une assiette.
Eh oui, parce que faire de la cuisine, c'est aussi faire de la politique. Gaston Courriot, donc extrait d'un documentaire diffusé dans France, sur France Télévisions en novembre dernier, il y a quelques semaines. Donc Mario Vargas Llosa, qu'on connaît très bien, prix Nobel de littérature 2010, avait salué l'action de Gaston dans le quotidien argentin La Nación. Il avait dit « Son exploit est à la fois social et culturel. Personne n'a autant contribué à ce que le monde découvre que ce pays qui souffre de tant de manques et de limitations joue également d'une cuisine parmi les plus variées, inventives et fines du monde, qui peut se comparer sans complexe aux plus fameuses comme la cuisine française ou la cuisine chinoise. C'est évident, Lourdes Plouvinage, que son action a été décisive. C'est un véritable ambassadeur, cet homme.
Oui, effectivement. Je pense que le Pérou lui doit énormément, car il a donné vraiment de lui. Il a eu l'idée de développer la simple cuisine péruvienne et la convertir dans une grande cuisine péruvienne. Il a fait passer le simple cuisinier en chef de cuisine. Et aujourd'hui, ils se rendent compte qu'il y en avait quand même le capital essentiel au Pérou. Il a fait la première foire des gastronomies.
Foire gastronomique internationale de Lima, 2008. Première édition 2008, avec 23 000 visiteurs. Je crois qu'aujourd'hui, c'est beaucoup
300 000.
Plus. 300 000 avec 300 000. Des conférences, des tables rondes, des présentations de livres, et évidemment, des concours de cuisine, évidemment.
Il invite les chefs étrangers. Donc, on a vraiment le plaisir d'avoir des chefs de France et Espagne et partout.
Ézéchiel Zera, c'est vrai que cette foire gastronomique internationale de Lima, c'est une vitrine extraordinaire.
Oui, tout à fait. Et puis, pour revenir à Gaston, voilà, c'est le, si je peux m'exprimer ainsi, le Joël Robuchon de la cuisine péruvienne. Ouais. Il a ouvert énormément, il a fait évidemment beaucoup. Je crois qu'il a une quarantaine d'adresses aujourd'hui à travers le monde. Alors certains regrettent un petit peu aujourd'hui son omniprésence.
Alors justement, c'est ça que j'allais vous dire, parce que beaucoup disent, enfin en tout cas certains disent qu'il prend trop de place et que d'une certaine manière, les autres n'arrivent pas à vivre dans le paysage gastronomique péruvien. Vous pensez que c'est vrai ?
Disons qu'il incarne tellement le pays que c'est difficile effectivement d'exister à côté. En même temps, on voit qu'il y a des jeunes chefs qui apparaissent. Il y a évidemment Virgilio du restaurant du Central, et d'autres. Il a notamment créé des écoles. Donc on voit qu'il y a aussi une volonté de sa part de pas uniquement se concentrer sur la haute cuisine, la haute gastronomie, mais voilà, d'essayer de valoriser son pays aussi et les acteurs de son pays.
On va revenir sur l'école, hein, Lourdes Plouvinage. Je sais que ça vous tient à cœur, mais évidemment, on reconnaît à Courriot un formidable esprit entrepreneurial, une créativité aussi, peut-être sans limite. D'où est-ce qu'elle vient? Est-ce que c'est seulement une question de personnalité? Ou est-ce qu'il faut aller chercher, là encore, peut-être dans l'histoire du pays, les sources de cette vitalité?
Et pour moi, je pense que lui, il est venu en France, d'abord en Europe, pour faire ses études, et après il est tourné à la France faire le cordon bleu. Et en repartant au Pérou, parce qu'il ouvre son restaurant, en même temps que moi j'ouvre le restaurant péruvien à Paris, il essaye de travailler la cuisine française qui ne fonctionne pas. Et tout de suite après, il se rend compte qu'il y a quelque chose à faire sur la cuisine péruvienne. Il se met au galop à travailler une belle cuisine péruvienne. Mais c'est qu'il y a, et faut pas oublier, qu'il s'est fait une armée à côté de lui. Il récupère tous les chefs, jeunes chefs, talents péruviens de son époque. Il commence à travailler avec lui. Aujourd'hui, il travaille en équipe. Hein, parce que si on voit Virgilio, et le chef de Malabar, et tous les grands chefs des grands restaurants péruviens, ils travaillent ensemble. Je pense que cette union a fait la force du développement de la grande gastronomie péruvienne. Alors, il travaille en équipe, en fait.
Le travail d'équipe, vous parliez d'armée, justement, parce que certains considèrent que, d'une certaine manière, l'autoritarisme passé du régime péruvien, en gros des années 50 aux années 90, a bridé évidemment les Péruviens, ce qu'on comprend, et qu'aujourd'hui, ils se libèrent, et que c'est cette libération qui produit cette force créatrice.
C'est une histoire de volonté, je pense. Ils ont compris qu'il y avait quelque chose à faire. Ils ont compris, maintenant, ils sont alliés. Et donc, cette force fait que le boom soit de plus en plus important. Pour moi, c'est cette union qui a fait. Lorsqu'on va parler de Gaston, il a toute une équipe. Déjà, il y a une grande photo. Il y a Gaston et ses apôtres.
Mais il y a un côté un peu culte de la personnalité chez Gaston, quand même. Hein.
Il faut connaître Gaston, et personnellement, c'est quelqu'un de très simple, malgré l'ampleur qu'il a pris et son institution.
Je vous parlais du passé autoritariste du pays. Gaston, il a dit la chose suivante. Il a dit que la cuisine avait guéri l'âme d'un peuple entier et enterré son vieux complexe d'infériorité.
Je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Parce qu'il avait, il a compris. Il a compris qu'il avait, comment il avait, il a pris ses armes. Et les armes, c'était la gastronomie. Mmh.
Mais du point de vue de la cuisine, vous qui êtes, Lourdes Louvinage, une chef, est-ce qu'il a véritablement révolutionné la cuisine péruvienne? Comme aurait pu le faire, je sais pas, par exemple, Ferran Adrià, le chef catalan, avec cette cuisine moléculaire. Est-ce qu'il y a une vraie révolution chez cet homme? Ou est-ce que d'une certaine manière, sa force a été de rassembler des choses déjà existantes pour les présenter au monde? Il y a une révolution dans sa pratique de la cuisine?
Oui. Là, on voit la présence, par exemple, de son passage dans la grande cuisine française. Nous, on mélange le riz avec la pomme de terre, avec les légumes, on mélange tout. Et finalement, on fait un amalgame de notre cuisine. Lui, est-ce qu'il a mis, il a éduqué les chefs aujourd'hui à respecter la matière première, respecter les produits, les mettre en valeur. Et là, je pense que ça, c'est une histoire d'éducation qu'il a fait au Pérou. Donc les gens, ils suivent ça, ils s'écoutent, ils sont très à l'écoute. Et je pense que pour ça, les écoles, qui lui, il est en train d'appuyer, ça va servir à beaucoup de choses.
On va parler dans un instant d'école. Ézéchiel Zerah, révolution ou pas chez Gaston?
Plutôt que de révolution, j'aimerais parler de dévolution.
Ouais.
J'ai pas l'impression qu'il a inventé quelque chose, une technique, ou il y a peu d'inventeurs dans la gastronomie.
Absolument. Les révolutions sont rares.
Il y a plutôt des évolutions, il y a moins des créateurs que des auteurs. C'est un auteur, évidemment, ce qu'il a fait est remarquable. Après, voilà, est-ce qu'il a inventé, pas inventé? Ce qui est sûr, c'est que ça a été l'un des premiers. Il s'est installé justement comme vous en 94 au Pérou, après avoir été formé au Cordon Bleu à Paris. Donc il a eu une ouverture d'esprit, effectivement, avec un savoir-faire français qui lui a permis peut-être de développer tout ce qu'il fait aujourd'hui.
Lourdes Plouvinage.
Il a récupéré. Ouais. Il a récupéré, vraiment, parce que on commence à parler de la cuisine pré-Inca. Donc quand il parle de la cuisine novo-andina, il récupère il voyage, il commence à voyager dans vraiment le Pérou profond, il récupère des plats, il le met en valeur, des choses que nous on avait perdues, on les avait laissées à l'oubli. Et lui, il a quand même beaucoup d'imagination, il les récupère et il les met en valeur. Et maintenant il y a des plats qui on les mangeait pas. Il va dans la petite ville, les villages perdus dans la montagne, et il va voir la petite femme qui va faire son repas. Il discute avec, il comprend ce qu'il fait, et après, non seulement va l'aider logistiquement, sinon il va lui donner des conseils. Et donc là, il fonctionne l'homme d'entreprise. Et il va voir ça dans tous les coins du Pérou. Et c'est pour ça que petit à petit, il commence à s'aimer quelque chose qu'aujourd'hui, il a commencé à grandir.
Vous parliez de la civilisation Inca et tout à l'heure, on parlait de certaines formes de culte de la personnalité chez cet homme. Est-ce qu'au Pérou, le chef cuisinier a un statut particulier? Est-ce que son statut lui confère un certain pouvoir politique, pourquoi pas mystique?
Vous savez que des chefs cuisiniers au Pérou, il n'y en avait pas. Il y a 20 ans.
Mais est-ce que le chef cuisinier d'aujourd'hui est d'une certaine manière l'héritier du chef Inca? Voilà, c'est ça ma question.
Je pense, parce que Manège a toute une équipe. Et ils disposent. Et ils sont ouverts, déjà. Et effectivement, parce qu'avant, il n'y avait pas des chefs hommes. Il y avait les femmes. La femme, c'était dans la cuisine, pas les hommes. Mais aujourd'hui, il y a une révolution. Parce que les hommes, ils se sont mis à la cuisine. Les écoles, ils sont blindés des chefs cuisiniers. Il y a 20 ans, je n'avais pas ce phénomène-là. Je pense qu'il y a quelque part, il y a une révolution.
Vous parliez d'école, justement.
C'est une arme sociale qui peut donner des outils à ces jeunes qui n'avaient jusque-là pas la possibilité d'accéder au système scolaire. On leur a donné des outils, une formation solide, pas uniquement en technique, ce qui est très important, mais aussi des valeurs humaines. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont insérés dans le marché du travail et sont des références.
30 euros, ça va encore. Ma sœur m'aide. Ma mère aussi, donc ça va. on peut le payer, c'est correct. Et comme il y a des supermarchés qui nous fournissent des produits, on n'a pas besoin de les acheter.
Voilà, extrait d'un documentaire Arte. On entendait Baldo Zapata, qui est le responsable de la communication de Pachacutec, et puis une élève justement de cet institut culinaire de Pachacutec, qui se situe à une quarantaine de kilomètres de Lima, qui forme les futurs, probablement, grands chefs du pays. C'est un institut qui a été fondé en 2007 par Gaston Acurio. Donc, quel regard vous portez, Lourdes Plouvinage, sur la formation des cuisiniers au Pérou en général? Est-ce qu'elle est de nature à porter haut les couleurs, justement, de la cuisine péruvienne? Et est-ce qu'elle peut aider aussi, ça c'est une vraie question, les plus défavorisés à bénéficier de cet essor?
Oui, effectivement. Je pense que l'idée d'avoir formé cette école dans une bidonville en plus, former ces jeunes qui n'avaient pas, peut-être pas d'avenir fixe, et en voyant cette école, je crois que c'est l'espoir et a beaucoup aidé la jeunesse péruvienne. Parce qu'il faut savoir que dans la cuisine, à un moment donné, c'était dans les grandes écoles, c'était très cher. Mmh. Donc l'action de Gaston Acurio de mettre une grande école dans son bidonville où les gens ils avaient besoin, c'était vraiment une idée extraordinaire, car les élèves ils ont commencé à travailler des produits qu'ils ne connaissaient même pas. Ils connaissaient pas cette jeunesse-là retirée de Lima à la capitale, par exemple les champignons, les faire travailler, les asperges, les travailler complètement et comment, c'était pas la nourriture de tous les jours. Donc cette école a donné quand même et la lumière au futur des grands chefs, peut-être aujourd'hui. Que nous-mêmes, en Europe, on voudrait bien le savoir. Parce que l'école, elle est bien fondée. Et Gaston a pris soin de mettre des bons professeurs et au maximum de la technologie, d'une cuisine correcte.
Des bons professeurs, une bonne technologie, des frais aussi d'inscription, énorme, qui sont importants, mais beaucoup moins importants que dans les grandes écoles gastronomiques du pays. Je crois que c'est 3 ou 4 fois moins cher à peu près que les autres écoles, les autres principales écoles. Ezekiel Zera, c'est vrai qu'évidemment, la formation, c'est un élément décisif pour poursuivre ce rêve péruvien qui est en train de d'exploser là.
Effectivement, le documentaire parlait d'armes sociales.
Oui.
On est vraiment dans ça. Il faut rappeler que ce que fait Gaston Acurio au Pérou, c'est ce que fait également un chef comme Thierry Marx en France, qui est également très médiatique, avec ses écoles gratuites à Marseille, à Besançon, en région parisienne, à Paris également, centrées sur la boulangerie, la cuisine, le service en salle. Et il a aidé, effectivement, il aide encore des dizaines, peut-être des centaines d'étudiants, de gens qui sortent de prison, qui ont besoin d'un travail. Il les forme et c'est une idée qui est plutôt intéressante.
Est-ce qu'on a une idée des retombées économiques de ce nouveau succès en termes de tourisme, en termes d'emploi? Alors moi j'ai essayé de regarder un peu, il y a plein de chiffres, mais c'est très très difficile évidemment de mesurer tout ça, mais on parle de 5 millions d'emplois qui dépendraient de la gastronomie péruvienne au sens très large. On parle d'un chiffre d'affaires équivalent à 11% du PIB. Ça a l'air d'être absolument colossal dans l'économie du Pérou. Alors évidemment, je mets quelques réserves sur ces chiffres, parce que c'est, une fois encore, c'est très difficile de mesurer, de voir ce qu'on trouve derrière, mais ça a l'air en tout cas d'être très important du point de vue économique, Ezekiel Zera.
Tout à fait. Alors, il faut évidemment rester en retrait des chiffres, forcément, mais il y a la radio américaine NPR qui avait en 2013 justement évoqué certains chiffres. Ils étaient allés voir l'ambassade péruvienne à Washington. Et l'ambassadeur à Washington du Pérou disait, en 2013, on pouvait estimer que ça représentait le tourisme gastronomique au Pérou représentait 700 millions de dollars de retombées économiques. Il disait également que 40% des gens qui se rendaient au Pérou le faisaient principalement pour la gastronomie, pour la cuisine.
Sur les retombées, Lourdes Plouvinage, bien sûr, évidemment, il y a des retombées très importantes. Mais est-ce qu'on peut pas aussi nuancer les choses? Prenons un exemple très concret, le quinoa. En quelques années, le pays est devenu le premier producteur de quinoa au monde. Les pays riches, ont évidemment découvert les vertus absolument formidables de cette graine. En 10 ans, les surfaces de production ont explosé. Sauf que, avec l'augmentation des prix des matières premières, les paysans péruviens n'en consomment pratiquement pas, pratiquement plus. Donc derrière le miracle de la gastronomie péruvienne, on a aussi toute une agriculture productrice d'inégalités.
Oui. Ça, c'est la partie qui ne sont pas... Je pense que là, ils ne sont pas calculés à ça, par exemple. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, le quinoa qui avons l'acheté à 4 euros, il est maintenant à 7 ou 8 euros le kilo. Parce qu'il y a, il manque la terre, il ne produit pas assez, il est fatigué. Je pense que là...
Mais là, est-ce qu'il n'y a pas un manque vraiment colossal du côté de la puissance publique? Parce qu'il faut quand même rappeler que le pays souffre encore d'insuffisance alimentaire terrible. 30% des enfants sont atteints d'insuffisance alimentaire. Alors là, on parle de haute gastronomie, on parle de restaurants formidables, sauf qu'il y a des enfants qui meurent de faim, enfin,
oui,
qui sont en insuffisance alimentaire.
Je pense que là, il y a un problème. Effectivement, il y a un problème. Là, ils sont calculés pour l'extérieur, sans regarder qu'à l'intérieur, ils avaient besoin. La population avait besoin de consommer.
Il y a des initiatives justement pour pallier ce problème.
Oui, aujourd'hui, il y a des ONG, il y a le gouvernement qui essaie de se retourner contre ça.
Et est-ce que par exemple, un homme comme Gaston fait quelque chose?
Oui.
Quoi?
Et protéger les terres déjà, mm-hmm. Protéger et voir vraiment
déjà,
la qualité.
Déjà, c'est fondamental, vous dites, c'est fondamental, protéger
oui,
les terres.
Oui, oui, bien sûr. Mais il n'est pas tout seul. Je pense que c'est toute une action que le gouvernement doit l'appuyer. Je pense que là, il est en train de le faire.
Voilà, c'est la face sombre aussi, effectivement, d'une réalité qu'on décrit depuis ce matin.
Malheureusement.
On parle toute cette semaine de gastronomie, le Pérou, nouvel Eldorado gastronomique. On est avec Lourdes Plouvinage et Ezekiel Zera.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Et on va retrouver tout de suite Marc Dallard, qui est à Lima, qui est chef cuisinier, ancien chef enseignant à l'école hôtelière de Genève et au Cordon Bleu de Lima. Désormais, il est consultant, il travaille pour le groupe Queirolo, principal producteur de pisco et restaurateur de tradition au Pérou. Marc Dallard, il a exercé dans de nombreux hôtels-restaurants en Europe, à Amsterdam, à Genève, à Londres. Il est franco-péruvien, sa mère est péruvienne, il est né au Pérou, il a passé plusieurs années, puis ensuite il est allé en France pour faire ses études, avant de repartir au Pérou. On l'a appelé hier soir, parce qu'il est un tout petit peu tôt là en ce moment au Pérou. Alors comment est-ce qu'on vit au Pérou cette soudaine renommée internationale de la gastronomie andine, avec surprise, avec étonnement, ou est-ce qu'au contraire on se dit que finalement c'est tout à fait mérité, voire carrément trop tardif? Marc Dallard.
Oui, en effet, moi je pense que c'est mérité. Effectivement c'est tardif. Je pense que ça a été dû un peu à la conjoncture politique du Pérou. On a vécu fin des années 80, début des années 90, le terrorisme. Ce qui ne nous a pas permis d'avoir cet essor qu'on a actuellement, en fait.
Marc Dallard, certaines personnes considèrent que derrière la vitrine se cache aussi une réalité qui est peut-être moins reluisante. Je pense par exemple à Raoul Mata, qui est un anthropologue de l'université de Göttingen du côté de l'Allemagne, et lui dit que le phénomène de la haute cuisine péruvienne, il se fait aussi au mépris des traditions populaires et au détriment des classes les plus pauvres. Est-ce que c'est votre avis?
Oui, 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 je suis de l'avis de Monsieur Raoul Mata, parce qu'en fait, à Lima, c'est une grande capitale, il y a vraiment une différence entre les classes sociales. C'est vrai que, par exemple, quand on voit que la quinoa s'exporte énormément du Pérou, cet effet-là fait que les produits tels que la quinoa ou les produits d'exportation aient un prix qui s'enchérit, et donc les populations les plus pauvres ne peuvent plus se les payer. Chose qui était, quelques années en arrière, leur alimentation principale.
Oui, c'est vrai, parce que si les grands chefs, et bien sûr de Lima, utilisent, préparent des ingrédients qui sont cultivés par de petits producteurs andins, c'est vrai que ces producteurs, eux, ne peuvent même plus manger finalement leur récolte, parce que ces produits sont devenus totalement inabordables. Et vous avez raison de dire que la quinoa est de ce point de vue-là un exemple vraiment probant, parce que le Pérou, c'est le premier producteur mondial. Mais en réalité, aujourd'hui, les paysans péruviens ne mangent absolument pas de quinoa parce que c'est beaucoup trop cher pour eux en réalité.
Bon, ils la mangent toujours parce qu'en fait, il existe plusieurs variétés de quinoa. Mmh. La quinoa blanche, la plus populaire, c'est celle qui peuvent encore se payer. Malheureusement, la quinoa rouge ou la quinoa noire sont devenues trop chères pour eux.
On dit depuis ce matin, Marc Dallard, que cette cuisine péruvienne, c'est une cuisine extrêmement métissée. Est-ce que vous parleriez vraiment de métissage, ou est-ce que vous diriez qu'il y a quand même aussi une forme de domination, finalement, d'un type de cuisine sur un autre?
Effectivement, en fait, la cuisine péruvienne, c'est une cuisine très ancienne. C'est une cuisine qui vient même avant les Incas, donc c'est une cuisine très incaïque, comme on pourrait dire. Il existe toujours actuellement des recettes qui ont à environ 3000, 4000 ans d'ancienneté. Ce sont des recettes qui se faisaient avant l'existence en Amérique du Sud de la céramique. Les cuissons se faisaient à travers de pierres qu'on faisait chauffer et qu'on mettait dans des courges. Donc c'est une cuisine qui est très ancienne, qui a des racines très ancrées. Mais nous avons eu, avec principalement l'arrivée des Espagnols, un métissage. Les Espagnols, ils ont amené au Pérou, par exemple, le cumin, le raisin, le riz, le blé, le sucre. Des produits qui sont actuellement très utilisés dans la cuisine. Après, on a eu l'arrivée, dans les années 1700 environ, des Africains, qui ont aussi ramené leur façon d'épicer les préparations. On a eu surtout l'arrivée des Français qui a dominé principalement les techniques, parce que les chefs qui sont de renommée internationale aujourd'hui au Pérou, ce sont des chefs qui ont passé par des écoles de cuisine françaises.
Vous donnez l'exemple de cette recette, de cette cuisson dans des courges, mais est-ce que tout ça n'est pas marginal? Parce que il y a évidemment des choses très importantes qui restent de la cuisine inca, et on pense évidemment à la pomme de terre et au piment, qui sont peut-être les deux piliers, les deux ingrédients justement de cette cuisine incaïque, pour reprendre votre formule. Mais c'est très marginal dans la gastronomie contemporaine péruvienne. C'est pour ça que je parle de domination.
Effectivement, on a actuellement la cuisine française qui a dominé, la cuisine italienne, on a aussi la cuisine chinoise, et tout ce métissage a créé la cuisine péruvienne actuelle. Mais la cuisine traditionnelle reste très ancrée dans la culture péruvienne. Comme je vous disais, à Lima, on a une cuisine qui est très internationale. Mais en province, vous sortez, vous faites 200 ou 300 kilomètres... Vous sortez de Lima et puis vous avez toujours cette cuisine très ancienne qui est utilisée par la plupart de la population péruvienne.
Parlons un peu de boissons.
Hay nombres como Santiago Queirolo que forman parte de nuestra historia, que nos acompañan hoy como acompañarán a nuestros hijos y nietos. La dimensión de una bodega reconocida y estimada. Santiago Queirolo.
Marc Dallard, je crois qu'aujourd'hui vous travaillez pour une société de production de pisco, qui est cette eau de vie locale à base de raisin. Depuis 1988, je crois que les autorités péruviennes ont déclaré le pisco comme élément du patrimoine culturel du pays. Et par ailleurs, il existe un différend très important entre le Pérou et le Chili, qui en revendiquent tous deux la paternité. Il y a une véritable querelle extrêmement forte, querelle d'historien, qui est encore très très forte aujourd'hui. Il y a eu par exemple récemment, il y a quelques mois, un journaliste chilien qui a parlé de pisco péruvien lors d'un entretien avec Santiago Queirolo, et ça lui a valu tout simplement d'être limogé dès le lendemain matin. Donc on voit que c'est encore un sujet extrêmement sensible. Visiblement, dans cette bataille, mais je voudrais avoir votre avis, il semblerait que ce soit plutôt le Pérou qui semble l'emporter, en tout cas du point de vue de l'Union européenne, puisque le pisco péruvien a obtenu le statut d'IGP, c'est-à-dire d'indication géographique protégée, dans la réglementation européenne.
Oui, exactement. En fait, le pisco, c'est une eau de vie. La particularité du pisco avec d'autres eaux de vie, comme par exemple la grappa qui existe en Italie, ou l'eau de vie qui se fait au Chili, la différence est qu'au Pérou, l'utilisation du mou de raisin se fait pour la préparation du pisco. Après, Pisco, c'est une ville qui se trouve, c'est le port principal d'où partaient toutes les exportations à l'époque de la colonisation espagnole dans les années 1700. Donc c'est un port qui existe depuis toujours à 300 km au sud de Lima. Et la région productrice de raisins, c'est la région de Ica, le département qui est au sud de Ica, qui est Arequipa. Donc c'est vraiment une production qui se fait avec un savoir-faire péruvien. Et donc oui, pour moi aussi, le pisco est péruvien. Et puis,
bon, attention, je ne voudrais pas fâcher les Chiliens. Hein. Je ne prends pas position dans ce débat-là. Hein. Les Chiliens vous diraient que le pisco, c'est typiquement chilien. Mais en tout cas, c'est vrai que si on regarde les capacités d'exportation, le Pérou semble mieux placé aujourd'hui que le Chili dans les exportations. Peut-être dernier mot, Marc Dallard, vous parliez de recettes inca. Vous pouvez peut-être nous en livrer. Allez, une pour faire un peu rêver nos auditeurs. Laquelle?
Le ceviche est un des plats que mangeaient déjà les Incas. C'est le plat, je pense, le plus connu à l'international, le plat péruvien le plus connu. C'est un plat qui se fait de partout en Amérique du Sud, mais particulièrement au Pérou, c'était un plat qui se faisait donc à l'arrivée des Espagnols avec des...
On mangeait déjà le poisson comme ça, cuit avec le citron, poisson cru.
Exactement.
Chez les Incas.
Chez les Incas, donc, ils utilisaient le tumbo. Le tumbo, c'est un fruit qui vient de la forêt, donc des Andes. ou sinon ils utilisaient le camu camu, qui est un fruit aussi qui n'est pas encore très connu à l'international, qui est un fruit qui vient de l'Amazonie péruvienne. Donc c'était ce qu'ils utilisaient après, quand les Espagnols sont venus, ils ont utilisé le jus de citron.
Ah, j'étais persuadé que ce poisson cru, c'était vraiment un apport de la cuisine japonaise, mais...
Non. Mais... ça s'utilisait avant. D'ailleurs, ciuiche veut dire en quechua, la langue des Incas, poisson frais. Donc, avec l'arrivée des Espagnols, il y a eu l'arrivée des oignons, l'arrivée du citron, donc qui ont modifié un petit peu ce plat. Ce plat se faisait traditionnellement en faisant comme un escabeche de poisson qu'on peut trouver en France. C'est une cuisson faite à base de vinaigre, donc d'un produit acide. Ici, on utilisait les fruits dont je vous ai parlé, le tumbo et le camu camu. Et donc, avec cet apport des Japonais, la marinade qui se faisait avant pendant plusieurs heures se fait maintenant instantanée. Et donc, le poisson est beaucoup plus cru. Donc, il y a eu une modification de ce plat Inca avec l'arrivée des Japonais, qui l'ont transformé en un plat qui se fait à la minute, qui se mange vraiment beaucoup plus cru, parce que avant l'arrivée des Japonais, c'était un plat qui était complètement cuit par l'acidité du citron, et donc c'était un poisson qui était un peu plus sec. Maintenant, on a un petit peu plus de texture, on a un peu plus de saveur, et d'ailleurs, on peut y trouver maintenant un peu de céleri, un peu de gingembre, un peu de feuilles de coriandre à l'intérieur, donc ça a vraiment été modifié, et ça s'est embelli. Donc voilà, ça, c'est pour parler du ceviche.
Eh oui, le ceviche, c'est pas seulement l'arrivée des Japonais qui ont permis l'émergence de ce plat. Ça existait déjà à l'époque des Incas. Voilà ce que nous apprend Marc Dallard, qu'on avait depuis Lima. Un grand merci à nos deux invités qui étaient avec nous ce matin, Ezekiel Zera, rédacteur en chef adjoint du site d'information Ataboula. Et un grand merci à vous, Lourdes Plouvinage. Vous êtes une chef de ce restaurant péruvien, parisien, El Picaflor, qui est un petit oiseau, mais il y a d'autres établissements que vous tenez ou que votre fils tient. Je crois qu'il vient d'ouvrir notamment un bar à Pisco, justement, on en parlait à l'instant, et de tapas péruviennes.
Oui, le Pisco Bar.
Voilà, Pisco Bar. Picaflor aussi, c'est dans le quartier latin. On mettra quand même toutes ces adresses sur le site internet de France Culture, sur la page de Culture Monde. Merci infiniment de nous avoir éclairés sur cette gastronomie péruvienne, ce nouvel astre de la gastronomie mondiale. C'était un plaisir. Dans un instant, on retrouvera la grande table avec Olivia Gesbert, mais tout de suite, place au tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et vous vous penchez cette semaine sur l'ordre, le futur ordre international, celui qui nous attend pour l'année prochaine. Beaucoup de commentateurs estiment que l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche sonne la fin de la mondialisation, voire même la fin de l'ordre libéral du monde. Qu'en est-il ?
Oui, c'est une supputation que l'on trouve sous la plume de nombreux commentateurs. Ainsi, Francis Fukuyama signe dans la revue britannique Prospect, datée de janvier, un article très pessimiste. À ses yeux, les États-Unis sont devenus un État en déliquescence. Et si leur influence mondiale décroît, c'est parce que les lobbies de tout ordre, disposant de fonds considérables, ont corrompu les élites. En outre, relève-t-il, l'Amérique n'a jamais été aussi polarisée entre les deux partis. Le système de décision politique est paralysé par ce qu'il appelle la vétocratie. Les décisions présidentielles sont arrêtées au Congrès, les États fédérés, les comtés, voire les villes, constituent d'innombrables lieux où ces lobbies exercent leur pression. J'appelle décadence politique, political decay, écrit Fukuyama, l'arraisonnement du pouvoir politique par des groupes de pression bien organisés qui plient le système en faveur de leurs propres intérêts au détriment de l'intérêt général. Mais un système déliquescent est aussi caractérisé par son incapacité à se corriger lui-même parce que les intérêts en place et les manières de penser empêchent toute réforme. Le système américain a subi ce déclin au cours des décennies récentes parce que des élites bien organisées ont usé de la vétocratie pour protéger leurs propres intérêts. Fin de citation de Fukuyama. Avec Trump, écrit encore ce dernier, nous risquons d'avoir le pire de deux tendances qui fracturent actuellement le camp républicain, les baisses d'impôts pour les riches, préconisées par leurs élus au Congrès, mais aussi le protectionnisme et les limites à l'immigration, dont ces élus ne veulent pas, mais que réclament, eux, les électeurs de Trump. Alors on conçoit que sur la base d'un constat aussi désenchanté sur la situation intérieure des États-Unis, Fukuyama se montre extrêmement pessimiste sur la situation internationale. À ses yeux, l'ordre libéral est en train d'être balayé par une vague populiste et nationaliste dont Trump représente le dernier avatar en date. Dans l'expression « démocratie libérale », conclut-il, le mot « démocratie » est en train de prendre sa revanche sur l'adjectif « libéral » dont on sait qu'il n'a pas exactement le même sens en américain qu'en français. L'aspiration à la souveraineté l'emporte désormais sur le désir de liberté.
Fukuyama, on le sait, a beaucoup flirté avec le néoconservatisme, Brice. Ça explique peut-être le désenchantement que vous constatez chez lui, parce que cette école de pensée, elle est ouvertement récusée par Donald Trump.
Et oui, le futur président, vous l'avez dit, est l'adversaire déclaré des néoconservateurs. Il n'a que faire de promouvoir la démocratie chez les autres, et il estime que la politique étrangère américaine doit être alignée sur ses intérêts bien compris, et non pas inspiré par des valeurs. Il appartient donc à l'école réaliste. Faut-il pour autant se résigner à la disparition de l'ordre libéral d'après-guerre, se demandent nombre de commentateurs américains. Michael Mazar, un spécialiste en stratégie, indique dans un article qui vient de paraître sur Foreign Affairs une possible voie moyenne entre la doctrine qui consisterait à s'accrocher à cet ordre libéral et la tentation d'en revenir à une pure politique de puissance. L'ordre libéral d'après-guerre a été conçu et soutenu par les États-Unis, reconnaît-il. Il consiste en un certain nombre d'institutions telles que l'ONU, l'OTAN, le FMI, l'OMC, le G20, destinées à doter les relations internationales d'un cadre stabilisateur et de normes de règlement des conflits acceptées par tous. Mais voilà, les États-Unis ont voulu pousser un cran plus loin après leur victoire de 1989 sur leur adversaire soviétique. Ils ont cru devoir encourager les systèmes démocratiques et la bonne gouvernance chez les autres et aussi faire la promotion du libre-échange. Ils sont, de fait, trop intervenus dans les affaires intérieures de leurs principaux partenaires. Ils se sont comportés en superpuissance. Aussi, cet ordre est-il à présent remis en question par la Chine et surtout par la Russie, qui estiment que leurs intérêts ont été lésés dans l'affaire. En outre, les peuples des pays anciennement développés sont exaspérés par les effets de la mondialisation, tant en termes de pouvoir d'achat que de perte de souveraineté. Il ne faut pas s'y accrocher, donc, mais en imaginer un autre, plus flexible, moins dominé par Washington et qui fasse davantage leur place aux puissances émergentes. Puisque ces pays se sont sentis menacés par la promotion de la démocratie, les États-Unis doivent diversifier leur approche en fonction des problèmes et des régions. En fait, les États-Unis devraient renoncer à substituer un ordre international à un autre, mais plutôt imaginer des ordonnancements distincts les uns des autres, se recoupant partiellement. Il y aurait ainsi un niveau de coopération politique entre les puissances, afin de traiter entre elles les sources de conflits potentiels, un niveau destiné à la coopération économique, et un troisième, où les États-Unis continueraient à travailler avec leurs alliés pour garantir la stabilité régionale. Mais le rôle de ces alliés devrait être renforcé, dit l'auteur, afin d'éviter dans l'avenir les déploiements de forces américaines à l'étranger, perçus comme menaçants par les autres grandes puissances. En résumé, pour l'auteur de cet article, les Américains sont en train de se résigner à ne plus dicter aux autres nations des règles du jeu qui ont autant servi à stabiliser les relations internationales qu'à garantir leurs propres intérêts.
Et ben voilà pour ce qui est peut-être du futur ordre international. D'ailleurs, j'en profite pour dire que dès la rentrée, à la première semaine de janvier, on s'intéressera justement à cette nouvel ordre international qui s'ouvre. On interrogera toute cette question durant cette première semaine à partir du 2 janvier. Donc merci beaucoup Brice Couturier. On vous retrouve toujours demain, bien sûr,